Ouvrons nos oreilles, ouvrons nos yeux, la parole de Dieu a été faite chair. Ouvrons nos cœurs en Christ, Dieu est parmi nous, apportant la grâce, la miséricorde et la paix à chacune et à chacun. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le livret qui est au début du psautier français. Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur. Ô Éternel, de quel nom pouvons-nous t'invoquer? Tu dépasses tout nom. Quel cantique pourra chanter tes louanges? Quels mots pourront parler de toi? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'espérance de la création tout entière. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Et je vous propose de chanter, donc, à la gloire de Dieu, le psaume 47 dans le psautier français, « Frappez dans vos mains, vous, tous les humains ». Vous pouvez prendre place. Un chaleureux bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous pour ce temps de culte de Noël. Et c'est vrai que c'est une force de se retrouver ainsi rassemblés par cette espérance que Dieu nous donne en Christ. Et un bienvenue tout particulier à Marion Garel qui a demandé le baptême, un baptême d'adultes pour ce matin. Et c'est vrai que c'est pour nous un cadeau de voir ainsi une adulte entrer dans la foi chrétienne en demandant ce signe de la grâce de Dieu qu'est le baptême. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu l'aimeras avec intelligence, nous dit Jésus. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et avec ce psaume de David, nous nous tournons vers Dieu dans une prière de repentance pour lui demander son pardon et son aide pour arriver à vraiment vivre cet amour que le Christ a manifesté. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel, car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Mais le Christ nous a donné la certitude de la bienveillance de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tes péchés sont pardonnés, nous dit Jésus-Christ, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Alors nous avons donc la grande joie d'accueillir Marion qui a demandé à recevoir le baptême. Alors c'est une joie pour vous, Marion. C'est aussi une joie pour nous et pour notre Église de recevoir ce geste comme un signe. Marion, ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier. Avant que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous, bien sûr. Et rien ne vous privera de cet amour, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir. Et dans la liberté que Dieu nous donne de rentrer ou de ne pas rentrer dans son alliance, aujourd'hui, Marion, vous répondez à cet amour en demandant le signe du baptême. À celui qui vous dit « Tu es ma fille bien-aimée ». Vous lui répondez dans votre cœur et aujourd'hui, parmi nous, devant son Église, « Tu es mon Dieu et mon Père que j'ai dans les cieux ». Petit à petit, depuis des années, vous vous êtes ouverte à Dieu. Vous vous êtes préparée à recevoir ce baptême dans l'étude, dans la lecture de la Bible, dans toutes les langues, dans la méditation, dans la prière. Alors ce chemin parcouru jusqu'à maintenant nous porte à la joie et à la reconnaissance, mais ce chemin est encore largement ouvert devant vous pour marcher pas à pas sur cette route où Dieu vous accompagne et vous accompagnera toujours. Nous prions Dieu. Seigneur, selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie sur Marion. Le baptême va la marquer du signe de ta grâce pour qu'elle entre visiblement dans ton alliance. Qu'avec le Christ, elle reçoive chaque jour une dimension nouvelle, une grâce supplémentaire. Marion, désormais, chaque jour, ce baptême vous rappellera que vous n'êtes pas seul sur le chemin de votre vie. Ce baptême vous appellera à demeurer en communion avec Jésus-Christ en qui vous êtes offerte la joie d'une vie consacrée au service des autres, d'une vie qui est une marche, un cheminement confiant dans cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Et ce Saint-Esprit que Jésus-Christ promet, il vous est donné à vous en particulier pour que vous puissiez être créés un peu plus chaque jour comme christique, comme à l'image de ce Christ que nous fêtons aujourd'hui en ce jour de Noël. À nous tous, frères et sœurs, Dieu rappelle aujourd'hui la grâce qu'il nous a faite lors de notre propre baptême. C'est pourquoi, dans la joie et dans la reconnaissance, nous entourons Marion. Avec elle, nous confessons notre foi et nous affirmons chaque jour à nouveau notre volonté de consacrer notre existence au Seigneur dans un service de plus en plus fidèle. Alors Marion, vous pouvez recevoir ce signe du baptême. Marion, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu vous accompagnera sur le chemin de votre vie avec sa paix, sa force et sa joie. Oui, que Dieu vous accompagne chaque jour de votre vie, qu'il l'illumine de bonté, d'idéal, de force, de paix intérieure et que vous soyez ainsi une ange dans ce monde qui a tant besoin de messagers, de paix, de foi, d'espérance et d'amour. Avec l'Église chrétienne, voulez-vous confesser la foi de l'Église universelle ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors c'est vrai que c'est la confession de foi qui est proposée, qui rassemble absolument, je pense, tous les chrétiens de toute Église, de toute génération. Mais vous avez préparé une confession de foi qui précise à la fois ce qui est le cœur de votre théologie, de votre espérance en Christ, mais aussi le cœur de votre foi, de votre dynamique sur ce chemin de vie. Alors, ça sera notre confession de foi pour aujourd'hui, donc je vous propose de vous lever pour vous unir par le cœur, par l'esprit, à ce que Marion témoigne comme foi chrétienne parmi nous ce matin.
Merci. Je suis venue te dire que tu es mon Dieu d'amour et d'espérance. En ce 25 décembre, il y a plus de 2000 ans, un enfant est né. Il y a plus de 2000 ans, cet enfant extraordinaire, au cœur sans frontières, nous a enseigné le pardon, fraternité sans condition, message d'amour et d'espérance. En ce 25 décembre, je te rends grâce. Je ne peux vivre sans toi. J'ai grandi dans tes cieux. Tu es partout où je pose mon regard. Dans les moindres recoins, ta lumière illumine mon chemin. Aujourd'hui commence un voyage dont tu es le projet. Mon horizon, ma force, ma paix intérieure. Sur la terre comme au ciel, je crois en toi, mon Dieu. Je t'ai longtemps cherché, sans jamais pouvoir poser un mot sur toi, l'Éternel. Hier, aujourd'hui, demain, je ne suis plus jamais seule. En toi, j'ai trouvé la famille, l'amour inconditionnel. En ce 25 décembre, ce baptême, aventure d'une vie, d'un avant et d'un après, et le cheminement d'une longue réflexion personnelle, entamée il y a déjà plusieurs années. Tu m'accueilles dans ta maison. Y exprimer ma foi est le plus beau cadeau que tu puisses m'offrir en ce jour. Je suis chrétien dans mon cœur depuis déjà des années. Ce baptême est une étape importante, mais tu as toujours été là, sans jamais te lasser. Tu me libères, me regardes tomber, me relever, toujours avec le même amour inconditionnel. Amen.
Merci pour ce cadeau de Noël. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Vous restez là, vous restez. Vous pouvez vous asseoir. Alors c'est vrai que nous proposons des engagements en cohérence avec cette foi que vous venez de confesser, mais c'est plus pour marquer que le baptême est plus un point de départ et que donc il y a cette visée, mais vous l'avez bien dit, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous est rappelé à chacun d'entre nous pour cheminer. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre Sauveur et c'est chercher à le suivre car il est notre Seigneur. Marion, voulez-vous donc, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer de vivre en chrétienne en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain et vous-même?
Oui.
Toute la vie de l'Église, en particulier la lecture de la Bible, la prière, le culte et la communion sont des moyens que Dieu nous donne pour persévérer dans cette foi qui nous est commune et pour être fidèles à ce cheminement qu'est Jésus-Christ. Mais au-delà encore de ces moyens qui sont offerts par l'Église, il y a ce travail personnel du cœur, de la réflexion, de la prière, du dialogue avec les autres. Et nous espérons franchement que ce que nous pouvons vivre ensemble avec vous, grâce à vous, dans cette église de l'Oratoire, pourra nourrir notre réflexion personnelle, notre prière personnelle et notre élan vers les autres. Marion, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a pour vous, en particulier en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous en sommes témoins, des témoins joyeux et reconnaissants. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne qui dépasse toutes les institutions humaines. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Nous prions. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. D'abord, bien sûr, pour ton Fils qui nous a apporté sa vie, qui nous a apporté ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton esprit qui demeure au plus profond de nous-mêmes comme source de force, de grâce et de paix. Merci pour ta parole vivante, parole éternelle qui nous guide vers toi et qui nous envoie vers les autres. Et puis nous te remercions de tout cœur pour Marion que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Marion, qui est témoin de cette grâce, de cette fidélité, de cet amour, de cette paix, de cette force que tu donnes. Grande est notre joie, plus grande encore est la joie dans le ciel pour ce moment de foi. Fortifie tout particulièrement la foi de Marion et aide-nous à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à nous approcher sans cesse plus de toi, à être plus confiants dans ta parole, à être plus au service des autres. En particulier, grâce au témoignage de nos frères et sœurs à nos côtés. Ouvre nos cœurs à ce témoignage. Amen. Un grand merci, Marion. Avec mon cher collègue James Woody, nous avons choisi de suivre pour ce Noël l'Évangile selon Jean. Et nous commencerons par la géniale méditation qui ouvre son Évangile. Cette introduction, ce prologue a valu à Jean de se voir attribuer la figure de l'aigle pour sa hauteur extraordinaire de vue, comme si Jean nous donnait ici un point de vue céleste, un point de vue quasi divin sur la réalité du monde, sur notre vie et sur ce qu'apporte le Christ. Les autres évangélistes se sont vus donner les trois autres faces des anges tétramorphes dont parle Ézéchiel, le lion, l'homme, le taureau. On voit la différence. Alors voici ce formidable prologue de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à laisser résonner en nous ce témoignage de Jean, eh bien je vous propose de chanter dans le recueil Louange et prière le cantique 90, les trois premières strophes de ce cantique de Noël, brillante étoile du matin. Éternel Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à avancer. Grâce au témoignage que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer afin de mieux te connaître et t'accueillir. Aide-nous à recevoir ta parole, cette parole unique que tu as pour chacun de nous au plus profond de notre être. Parole pour nous ressusciter maintenant, pour nous donner la joie profonde, en plénitude, qu'a le Christ, et pour remplir aussi nos cœurs d'affection vraie pour ceux qui sont autour de nous, pour toi, notre Dieu, et pour nous-mêmes, pauvres brebis. La parole de Dieu a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et de cette plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Voilà l'évangile de Noël, mais en fait, voilà l'évangile tout court, en quelques mots. Nous avons tous reçu de cette plénitude de la parole de Dieu faite chair en Christ. Tous, sans qu'aucune exception soit posée par Jean dans cet évangile. Tous, les bons chrétiens comme les moins bons, les chrétiens comme les autres croyants, les croyants comme les athées, les gens généreux, mais aussi les méchants. Selon ces paroles de Jésus qui nous affirme que Dieu aime jusqu'à ses ennemis, qu'il bénit même ceux qui le maltraitent, qui le persécutent et qu'il fait du bien à ceux qui le maudissent. Nous avons tous reçu de la plénitude et grâce pour grâce. Alors qu'est-ce que ça veut dire, grâce pour grâce ? Nous avons dans ce prologue de Jean 4 fois ce mot de grâce, charis en grec. Et ce sont les 4 seules fois de tout l'évangile, la finale de l'évangile étant plus sous le signe de la joie en plénitude, la joie chara qui est la même racine que celle de la grâce, charis, qui est ici en plénitude, comme si c'était là la source finalement de cette joie en plénitude que nous promet le Christ. La grâce dans la Bible, c'est comme quand un roi pardonne à l'un de ses sujets et le relève. La grâce, c'est ainsi la promesse que Dieu nous garde et nous gardera fidèlement envers et contre tout. La grâce dans la Bible, c'est comme quand ce roi donne un cadeau au-delà de ce qui est simplement dû, une gratification. Et venant de Dieu, ces dons sont comme des miracles surgissant dans nos vies, comme par surprise. La grâce, c'est quand quelqu'un est attirant sans être nécessairement beau. On dit qu'il a de la grâce, du charme. En réalité, c'est surtout cela, la grâce de Dieu. Il est amoureux de nous. Et cela explique tout le reste. Cette absence de chantage et cette générosité, nous voyons bien en Christ que Dieu est fou, amoureux, raide, dingue de nous. Ce regard positif qui pardonne et voit le bien en nous, c'est un amour en fait. C'est donc plus éternel que 1000 diamants, cet amour, c'est la fidélité de Dieu. Sa parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous en Jésus de Nazareth. Il n'est pas une idée abstraite ni un conte pour enfants, mais un homme qui a habité sur la terre. Jean en a été témoin et bien d'autres humains, hommes, femmes en ont été témoins. Et le monde en a été bouleversé. Mais cette expression, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, est une phrase à double sens. Et quand une expression est ambiguë dans la Bible, c'est rarement par maladresse. Mais c'est en général une ambiguïté pleine de sens, pleine de vérité. Ici, parmi nous, peut se traduire aussi bien en nous. La parole a été faite chair et elle a habité en nous, en chacun de nous, puisque nous avons tous reçu de cette plénitude de grâce et de vérité. Et que cette lumière, elle a été au bénéfice de chacun. Jésus-Christ nous a fait découvrir, oui, que Dieu est tendresse et fidélité, mais aussi que la parole créatrice de ce Dieu s'est incarnée en nous, au plus profond de nous. Et quel est ce qu'il y a de plus vivant et de plus beau en nous, de plus personnel, de plus intime? Il nous a montré que cette parole, elle prend chair parmi nous aussi, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus beau dans nos relations avec les autres, ce qui est source de joie. Il nous a montré, oui, que dans cet amour, nous sommes un petit peu capables parfois d'un amour qui est plus fort que tout, qui l'emporte sur toutes les négativités, d'un amour même qui l'emporte sur la mort. Jean nous dit que cette parole faite chair, elle a habité parmi nous, qu'elle a habité en nous. Et cette habitation est ici littéralement, avec le mot qui est utilisé, comme dans une tente de nomade, qu'un nomade dresse aujourd'hui pour le temps de l'étape avant de se remettre en route. Et c'est vrai que Jésus est vite passé en ce monde, passé comme une étoile filante, et pourtant, Pourtant, les échos de son passage ont profondément transformé le monde, l'ont mis en chemin, l'ont mis en route, l'ont mis dans une dynamique, et que cette dynamique du Christ peut transformer notre monde en joie pleine, en joie en plénitude. Alors bien sûr, cette qualité, cette transcendance n'existe en nous que comme un petit enfant, nous dit Jean, un enfant de Dieu. Mais elle existe, cette dimension. Ne le sentez-vous pas au plus profond de vous-même? Et ne reconnaissez-vous pas cette dimension dans chaque autre personne que vous croisez quand on l'a un peu découverte, en vérité? De cette plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce, nous dit Jean. Cette expression « grâce pour grâce », « charin anti caritos », elle est elle aussi ambiguë. Et là encore, c'est une ambiguïté qui est vraiment riche de sens. Nous n'avons pas à choisir un sens parmi les multiples, mais à tenir tous les sens en même temps. Nous avons reçu grâce sur grâce au sens d'une accumulation, d'une telle avalanche de cadeaux que la grâce de Dieu n'a jamais fini finalement de faire surgir en nous, parmi nous, dans nos relations, par les autres, pour les autres, par la foi, par des gestes, par une parole, par des signes. Et donc que Noël nous donne d'ouvrir les yeux chaque jour sur une grâce supplémentaire que Dieu a préparée spécialement pour nous, grâce qui nous surprendra par sa nouveauté bien sûr. Mais nous avons aussi reçu grâce après grâce, au sens d'une succession ininterrompue de grâces dans notre existence et dans les temps, venant accompagner chaque moment de notre transhumance en ce monde. Alors nous pleurons souvent sur ce que nous avons perdu. Il y a tant de trahisons, de déceptions, de pertes, de fragilités, oui, mais Dieu ne se lasse jamais. À chaque période, à chaque seconde de notre vie, Dieu nous donne une grâce nouvelle, une étape nouvelle. En Christ, nous voyons Dieu s'approcher de chacun pour le guérir, pour le ressusciter, pour l'interpeller, pour l'accompagner, pour l'encourager ainsi. Le don de la loi était une grâce reçue avec Moïse. L'Esprit qui a fait parler les prophètes était une grâce et de tout cela nous sommes bénéficiaires. Christ est une nouvelle étape, toute nouvelle, décisive, ultime, pleine de vie pour le monde. Et nous avons reçu ainsi grâce après grâce. Nous avons aussi reçu d'être habités par la grâce en échange, en réponse d'une grâce première, anti, c'est peut-être ça aussi le sens de ce petit mot grec. Et c'est cela également finalement. En Christ, nous découvrons ce que c'est que la grâce de Dieu, non seulement pour l'humanité, mais pour nous et pour chacun. Et donc grâce à cela, il n'y a plus de chantage possible. L'amour de Dieu est donné sans condition, la vie est donnée à chacun sans condition, la vie éternelle. En Christ, nous savons que tout cela a déjà été accordé, déjà donné, promis. Et donc si nous faisons le bien, si nous honorons Dieu de notre élan vers lui et de notre élan vers le prochain, ce sera alors nous-mêmes par grâce, puisque tout a déjà été donné. Et donc, notre grâce à nous répond à la grâce de Dieu manifestée de façon si éclatante en plénitude en Christ. Oui, la parole de Dieu a été faite chair avec une incroyable plénitude en Jésus de Nazareth, dans sa chair. Mais le mot chair, lui aussi, est à double sens, cette fois-là dans l'hébreu de la Bible. Le mot sarx grec traduit l'hébreu bassar, dont la racine signifie à la fois la chair, bassar, et l'évangile, la bonne nouvelle, bessora. Et donc en Jésus, oui, la parole de Dieu a été faite chair, elle a été faite un être de chair, de viande et de sang. Mais elle a aussi été faite évangile, bonne nouvelle. Alors jusqu'au jour de Pâques de l'an 33, la parole a été faite chair en plénitude pour une fois. Mais pour nous, la parole de Dieu demeure. Elle a été faite évangile, elle a été faite bonne nouvelle, portée par les paroles, par les gestes, par la vie dans la chair en Jésus de Nazareth, mais aussi par la bonne nouvelle de chacun de ses gestes, de sa façon d'être, qui nous parle de la grâce de Dieu. Grâce qui seule rend possible de vivre à notre tour par la grâce, aimant pour le plaisir de faire du bien, pour la joie d'aimer et de faire circuler cette grâce. Amen.
Nous poursuivons donc cette lecture de l'Évangile selon Jean pour y lire la nativité, en quelque sorte, que l'on peut y trouver. C'est au chapitre 3, et je vais vous lire les 16 premiers versets de ce chapitre 3. « Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit « Rabbi ». Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau ? Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, au sens de Sarxe. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, à quoi bon fêter Noël si toi, tu ne viens pas au monde aujourd'hui? Nicodème était un chef des Juifs, avons-nous appris par l'évangéliste Jean, un pharisien remarquable, qui n'avait probablement plus grand-chose à prouver. Il avait un niveau de connaissance digne des meilleurs théologiens. Seul problème, son savoir restait à la surface de sa vie. Il savait, mais il ne connaissait pas en quelque sorte. Il avait les informations, mais il ne les avait pas éprouvées au plus intime de lui-même. Tout ce qu'il pouvait savoir sur Dieu, sur la vie en plénitude, tout cela ne le touchait pas au cœur. Cela ne l'avait jamais changé de fond en comble. Et c'est ainsi que j'explique que Nicodème, tout respectable qu'il était aux yeux des hommes, n'eut pas le courage d'aller à la rencontre de Jésus en plein jour. C'est au cœur de sa nuit qu'il vint auprès de Jésus pour s'entretenir avec lui de ces questions qui le préoccupaient de façon ultime. Et c'est d'ailleurs cet épisode qui a donné naissance à l'expression nicodémite, mise en lumière notamment par Jean Calvin, pour désigner ceux qui n'osent pas vivre leur foi au grand jour. Les nicodémites sont ceux qui vivent leur foi cachée. Eh bien, Jésus, en quelque sorte, coupe court à la discussion. Et d'entrée de jeu, il l'invite immédiatement à naître de nouveau. On pourrait aussi traduire « naître d'en haut ». Jésus lui fait comprendre qu'il faut arrêter de vivre seulement en fonction de ses peurs et jamais de ses désirs. Jésus lui explique que vivre constamment à hauteur d'homme, c'est s'empêcher de s'élever un peu plus haut que ses seules préoccupations. C'est s'empêcher de vivre au-dessus de nos propres moyens. À quoi bon fêter Noël si toi, tu ne viens pas au monde aujourd'hui? Si tu restes enfermé dans ton tourment intérieur? Car Noël, ce n'est pas l'histoire d'une naissance qui reste dans l'ombre à jamais, cachée au cœur de la nuit. Noël, dès le départ, c'est l'histoire d'un énorme buzz médiatique. Beaucoup de bruit, et pas pour rien. Les bergers, des mages qui en apprennent, la cour royale, et puis de proche en proche, la région, toute la région, le bout du monde, nous aujourd'hui ici. Fêter Noël, c'est nécessairement fêter la fin de la vie cachée, de la vie avec la peur au ventre, avec la honte chevillée au creux des reins. Fêter Noël, c'est participer à la publicité de la vie. Fêter Noël, c'est être directeur de communication de Noël, de la vie que rien ne saurait arrêter. Noël, c'est mettre en évidence la beauté d'une naissance, la grandeur d'une existence. Et à quoi bon fêter Noël si c'est pour rester enfermé dans ses craintes, dans ses obsessions, si c'est pour ne vivre qu'un bout de ce que Dieu nous permet de vivre? À quoi bon fêter Noël si toi, tu ne viens pas au monde aujourd'hui, là, maintenant? Si tu n'es pas libre de ta parole, si tes choix sont comme confisqués, si tu ne peux pas promouvoir l'éthique qui te semble la plus fidèle à l'Évangile. L'esprit qui te porte, l'esprit qui est ton souffle, nul ne peut le maîtriser en vérité. Nul ne peut le prévoir. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va. Il échappe à tous les pronostics. Il échappe aux prédictions des Mayas. Il échappe aux analystes. Il échappe au FMI, au gouvernement, au professeur Ronchon. Ton esprit est au-delà de tout ce que les autres peuvent prédire à son sujet. L'esprit, c'est notre capacité à nous mettre en relation avec autrui et à produire du fruit. Eh bien, cela, ça ne peut pas être mis en équation. C'est indéterminé, libre comme l'air qu'il remue sans cesse. Naître d'en haut, agir selon l'esprit, c'est laisser notre créativité donner toute sa démesure. Non pas à se conformer à la règle, non pas à se soumettre à la norme, mais aller au-delà. C'est découvrir que nous sommes autorisés à aimer sans limite, sans frein, sans peur, sans honte et sans reproche. Se sentir vraiment autorisé, se dire qu'on peut aller de l'avant, c'est ça l'œuvre de la foi. C'est dans cette perspective que nous devons considérer que nous ne sommes pas nés une fois pour toutes. Dans le dialogue entre Nicodème et Jésus, quelque chose de neuf se crée. Nicodème découvre un nouvel aspect de la vie auquel son intelligence, son savoir ne l'avait pas encore sensibilisé. Nicodème est en haut de la hiérarchie théologique et il a encore à apprendre. C'est plutôt bon signe pour nous. Il n'est pas vrai que nous n'en finissons pas de vieillir, lui dit Jésus. Ce qui est vrai, c'est que nous n'en finissons pas de venir au monde. Et c'est dans cette perspective qu'il est juste et bon de fêter Noël. Il s'agit de célébrer la vie qui excède par-dessus tout, qui excède tout ce qu'on en a dit jusque-là. Et quand vos parents vous disent ce que devra être votre vie, écoutez-les, mais sans plus, car il se pourrait que votre vie soit autrement plus intéressante que ce que vos parents vous proposent. C'est ça l'Évangile, ne pas se contenter de ce que nos parents nous proposent de vivre. Ne pas se contenter de ce qu'un pasteur peut vous proposer de vivre. Ne pas se contenter de ses propres rêves. La vie dépasse toujours ce que les plus grands cerveaux peuvent concevoir. Par les nouvelles rencontres que nous faisons, par les nouvelles entreprises que nous initions, nous ne nous contentons pas de ce que nous pouvons faire individuellement. Mais nous nous ouvrons à ce que nous pouvons accomplir ensemble, selon l'esprit qui nous unit, sur cette terre où Dieu nous donne d'évoluer. Et si nous prenons au sérieux cette déclaration d'amour de Dieu pour le monde, si nous considérons que le monde n'est pas le lieu de l'enfer, mais l'objet de l'amour incessant de Dieu, alors notre vie ici et maintenant peut sérieusement s'intensifier. Elle peut gagner en qualité. Si nous prenons au sérieux cette déclaration d'amour de Dieu pour le monde, alors nous pouvons expérimenter d'ores et déjà cette vie éternelle qui consiste à vivre de manière absolue, sans avoir à regretter ensuite notre trajectoire. Dans notre face-à-face avec le divin, dans cet entretien entre Nicodème et Jésus, nous pouvons atteindre des sommets de l'existence à jamais constitutifs de notre être, que rien ni personne ne pourra jamais nous retirer. À quoi bon fêter Noël si toi, tu ne viens pas au monde aujourd'hui? Parce que le miracle par lequel le monde est sauvé, c'est précisément le fait de la natalité, comme l'écrivait Hannah Arendt. En effet, c'est par la naissance, c'est par la natalité que notre humanité est à même de produire quelque chose de singulièrement neuf, capable de sauver le monde de la reproduction stérile, à l'identique, d'un état du monde qui, pour l'heure actuelle, le laisse un peu à désirer quand même. Il y a franchement des choses à améliorer. Et reproduire le monde, c'est le maintenir en l'état. Aimer le monde à la suite de Dieu, c'est agir pour qu'il soit un peu plus vivable, un peu plus propice pour être source de joie pour ceux qui l'habitent. Et ça, ce n'est possible qu'à la condition de sortir de nos tanières, que nous vivions au grand jour, que nous cessions d'être l'ombre de nous-mêmes. Sortir de la caverne de Platon, c'est sortir de la nuit de Nicodème. Fêter Noël, c'est célébrer notre capacité à ajouter de la vie à la vie. La capacité qui nous est donnée par Dieu de renouveler l'élan qui inlassablement nous attire vers la vie éternelle. Amen. Grâce à notre organiste, vous avez, depuis le début du culte, cette mélodie de « Ô peuple fidèle » dans l'oreille. C'est désormais le moment de mettre cette mélodie dans votre bouche. Nous allons nous lever pour chanter au cantique 101 les strophes 1, 2 et 6 et « Ne cachez pas votre joie ». Nous allons dans un instant partager ce repas, cette scène instituée par Jésus Nous vous rappelons que nous sommes toutes et tous les bienvenus à ce repas présidé par le Seigneur et non par nous-mêmes. Quelle que soit votre trajectoire, quel que soit l'élan qui vous a poussé jusqu'ici, sentez-vous libre de participer ou non à ce repas. À l'issue du culte, en passant par le stand de librairie où vous pourrez faire vos derniers achats de Noël ou un petit quelque chose à apporter pour la famille ou celles et ceux qui vous accueillent pour le repas de ce midi, il y a même des bouteilles de vin du bicentenaire de l'oratoire, pensez à vous inscrire pour le repas paroissial qui aura lieu le premier dimanche du mois, donc le premier dimanche de janvier. D'ores et déjà, vous pouvez vous inscrire, cela nous aide à préparer les bonnes quantités. Dimanche prochain, culte à 10h30, présidé par mon collègue. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est l'occasion pour nous de ne pas cacher notre foi, mais de l'exprimer par notre don.
Oui, c'est le cœur en fête que nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Père de tendresse, Dieu toujours fidèle, car Jésus le Christ, lumière du monde, annoncé depuis des siècles, est venu parmi nous. Oui, aujourd'hui, l'inaccessible se fait proche. L'unique se fait compagnon et frère. Toi, le Dieu fidèle, tu te révèles en Jésus, ton Fils. Au chant des bergers et des anges, laisse-nous joindre nos voix pour confesser ta fidélité et ta bonté par notre chant.
Amen.
Dans la nuit où il fut livré, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » De même, ayant aussi pris la coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour le pardon de tous. » Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous nous unissons dans la prière. Dieu notre Père, répands ta lumière sur tous ceux qui sont dans la nuit. Nuit du doute ou du découragement. Celles et ceux qui te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, prince de la paix, suscite entre les hommes, nous t'en prions, le désir d'instaurer une paix juste et durable, de susciter un véritable esprit de communion, qui dépasse les rivalités, qui dépasse les haines, qui dépasse les jalousies. Fais de nous, nous t'en prions, des semeurs de paix, des artisans de justice. Fais de notre vie une terre d'accueil. Toi qui es l'espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les personnes malades. Tous ceux qui, pour quelque raison, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Dieu notre Père, celles que nous arrivons à formuler, celles qui nous restent coincées en travers de la gorge, celle dont nous avons juste l'intuition. Et que la lumière de Noël soit pour tous une source de joie et d'espoir. Pour ce faire, devant nous, tu dresses cette table, notre coupe déborde, et nous serons effectivement rassasiés. Nous recevons ce pain, nous élevons ta coupe des délivrances. Tu nous invites sans regarder à notre indignité. Nous nous souvenons que ton Fils partageait le repas des pécheurs. Il s'attablait avec les gens de mauvaise vie. La route est encore longue pour nous, le chemin parfois éprouvant. Mais nous prenons cette nourriture et ce breuvage afin que tu renouvelles notre force et que tu nous rassasies du bonheur de ta maison. Toi qui nous rassembles, toi qui nous invites, réveillons-nous le désir de vivre et fais vivre parmi nous l'esprit de ton Christ. Oui, envoie ton esprit pour que nous recevions en ce pain et en ce vin la présence véritable de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. C'est par lui que nous te le demandons, c'est avec les mots qu'il a enseignés à ses disciples que nous nous levons pour élever cette prière universelle en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen.
Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Venez, dit Jésus-Christ, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de Jésus-Christ, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude, pour le pardon de tous.
Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui éternellement.
Frères et sœurs, regagnons nos places resplendissants de la lumière de Noël.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce repas de fraternité. Nous te rendons grâce de cette vie au grand air que tu nous donnes de vivre. Nous te rendons grâce pour cette capacité de renouvellement qui nous autorise à créer sans cesse une vie à la hauteur de ton espérance. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Une bénédiction qui pourrait tout simplement s'exprimer en termes de joyeux Noël, mais en protestantisme, on ne peut s'empêcher d'en rajouter toujours un petit peu. Peut-être en disant que Noël ne devrait jamais se vivre de façon chiche, dans l'entre-soi, de façon confidentielle, mais que nous sommes appelés à une vie largement ouverte sur l'extérieur, une vie qui n'est pas recroquevillée, mais une vie qui s'épanouit. C'est cela que la bénédiction nous donne l'occasion de pressentir, d'intuitionner, comme disait Schleiermacher. Frères et sœurs, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rend nous-mêmes rayonnants et fraternels. Amen.